Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Camille Nevers de Libération, Pierre Murat de Télérama.fr,
Nicolas Chalère de
l'Obs, à la fois Obs.fr et Obsprint, oui. Comme on dit maintenant, Éric Nehoff. De la Galaxie, du Figaro, puisque tu écris dans tous les titres quasiment du groupe.
J'espère qu'on ne va pas racheter d'autres journaux.
Au programme ce soir, les films de Elier Cisterne, Cédric Clapiche, Christophe Baratier, Diastem, Michael Bay, Gabriele Menetti. Et oui, riche programme. Ouais. Dans le courrier de la semaine, Batman de Matt Reeves, encensé au masque, mais unanimement au masque. Partage, c'est le moins qu'on puisse dire à nos auditeurs, pour François Ménian, qui est pharmacien et qui habite Londres, et il est d'accord avec les quatre critiques. J'ai été époustouflé par ce Batman. La prestation de Paul Dano est particulièrement extraordinaire. Et pour Pascal Hénard de Bourg-les-Valence, The Batman restera comme l'un des grands films de super-héros, mais aussi comme un grand film tout court. J'ai été impressionné par Robert Pattinson, qui donne la meilleure composition du justicier ailé et d'un Bruce Wayne dépressif. En revanche, Marion, 32 ans, est très déçue par cette nouvelle adaptation qu'elle juge paresseuse. Artistiquement, l'univers pluvieux, corrompu et résolument sombre est directement inspiré du jeu vidéo Transistor, paru en 2014, et sa durée peine à m'impressionner tant il se noie, le film, dans les poncifs du genre. Quant à Éric Hermant, il parle d'un nanar intersidéral jusqu'au dénouement final, qui est grotesque, voilà. Non, je dis ça parce que, Pierre, tu étais là, tu as adoré.
Un dénouement, c'est souvent final, hein, faut lui dire.
Oh, c'est méchant. Qu'est-ce que c'est méchant.
Batman, ça se finit jamais.
En revanche, enthousiasme unanime pour Un autre monde de Stéphane Brisé. Film essentiel, puissant, intelligent pour Pierre Cuzor et un appel urgent à un autre monde où les actionnaires ne seraient plus les rois et le capitalisme ne serait plus la seule et unique règle du jeu. Comme vous, ajoute Monsieur Lafargue, j'ai adoré Un autre monde, mais je ne vous suis pas lorsque vous dites que les passages consacrés au fils du couple n'apportent pas grand-chose. J'y vois une belle métaphore de l'intrigue principale sur la folie capitaliste qui mène droit dans le mur. Gisèle Dujon nous écrit qu'en creusant son sillon, Stéphane Brisé construit une œuvre, aujourd'hui une trilogie, sur le monde du travail et de l'entreprise, qu'on se prend à rêver tétralogie. Après l'ouvrier, le syndicaliste et le directeur d'usine, Vincent Lindon, nous dit Gisèle Dujon, je le verrais bien dans le rôle d'un PDG et ça m'intéresserait beaucoup. Enfin, pour Arnaud Sanquer, le dernier plan du film est d'une beauté et d'une simplicité renversante. Enfin, plein de messages négatifs. J'en lis qu'un seul à propos du film d'Alain Guiraudy, Viens, je t'emmène, dont celui de Michel Essertier de Lyon qui se demande comment les critiques du masque ont pu encenser ce film et le comparer à un film de Bertrand Blier. C'est une pantalonnade navrante, tenant plus du théâtre de boulevard et dont le propos demeure une nébuleuse prétentieuse. Voilà.
Oui, c'est ce que j'avais dit. Hein.
Oui, c'est ça, ce que tu avais dit. C'est pour ça que je te regardais. Allez, on commence avec encore en suivi de corps, CORPS. Le nouveau film de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole, Les poupées russes, j'en oublie. Co-scénarisé par l'écrivain Santiago Amigorena avec Marion Barbeau. Le chorégraphe israélien Ofesh Schechter, Muriel Robin, François Civil, Pio Marmaille, Denis Baudelides, et j'en oublie un peu, Marion Barbeau, qui est première danseuse de l'Opéra de Paris, et dont c'est le premier rôle au cinéma. Elle est ici Élise Gautier, trompée par son compagnon danseur. Elle fait une chute grave durant un spectacle, et on lui assène qu'elle ne pourra plus monter sur scène. Elle part alors pour la Bretagne, où elle rencontre un nouvel amour et va découvrir une nouvelle façon de danser avec une troupe de danse contemporaine. On n'attendait pas vraiment Clapiche sur ce terrain-là et dans ce monde-là. Est-ce que ça vous a plu, fait danser, Eric ?
Oh, c'est moins mauvais que le titre, mais La danseuse se fait une entorse, mais on ne peut pas dire que Clapiche se soit foulé, lui, avec ça. C'est... Ça commence par un bon quart d'heure à filmer un ballet.
C'est préparé, ça.
Ah ouais, ça, c'est chiadé. Ah, mais la danse classique, ça se mijote. Hein. Non, c'est un film pas désagréable, mais quand même un petit peu inutile, parce qu'on a tout compris dès le début. On voit bien que cette,
non,
je sais pas comment, cette
coup,
première danseuse...
Je savais que ça allait...
Ah ben, elle va se reconvertir dans la danse contemporaine, c'est évident. Et puis elle va rencontrer l'amour. Et puis elle va aller dans un,
oui, lequel,
un endroit... Lequel amour?
Oui.
Ouais, enfin, on s'en fout. Et alors, en plus, il y a deux raseurs terribles. Il y a
oui,
le raseur, c'est François Civil, qui est le kiné avec un petit pompon sur la tête, son chignon. Alors lui, c'est toutes les banalités du développement personnel. Et il y a le raseur prétentieux et assommant, c'est le chorégraphe israélien, mais qui se prend pour Gurdjieff, pour
Schechter.
Il est redoutable. Hein. Alors, si on aime la danse contemporaine et la théorie, on peut y aller. Il y a Muriel Robin qui joue la patronne de cette retraite bretonne, qui fait beaucoup penser au Moulin d'Andé où Truffaut avait tourné une partie.
Alors, le Moulin d'Andé, il faut expliquer, c'est un lieu de rencontre d'écrivains, de cinéastes qui se trouvent dans l'heure et de comédiens.
Ouais. Alors, je sais pas, ça donne pas envie de s'inscrire à l'opéra, ça donne pas envie de devenir chorégraphe et ça donne pas envie de retourner au cinéma.
Camille.
Je serais un peu moins sévère.
Je suis un peu sévère.
C'est-à-dire que le film a plein de défauts. Ce que Eric a dit, c'est vrai qu'il coche un peu toutes les cases de film Erasmus en résidence en Bretagne, qui abrite comme ça des hipsters qui boivent du thé matcha. Mais en revanche, et je passe sur les défauts parce qu'il y en a beaucoup, mais quand même il y a une certaine audace sur la danse. Je trouve que l'ouverture du film qui dure un quart d'heure presque sans un mot, juste sur une espèce de chorégraphie de ballet jusqu'au premier mot qui est le mot déchirure, qui sera quand même le sujet du film puisque c'est l'histoire au pire d'un développement personnel et au mieux d'une remise sur pied, puisqu'il faut qu'elle se remette sur pied. Et je trouve que tout ce qui tourne autour de la danse, puisque apparemment Clapiche avait fait un documentaire déjà avec Aurélie Dupont, moi qui suis très comédie musicale, je suis assez bon public pour ça.
Et que c'est une vraie danseuse, Marion.
Et je trouve, voilà, si le film vaut vraiment d'être vu, c'est pour elle.
Absolument.
Parce que c'est un corps qu'on voit rarement, une comédienne, elle est géniale. Hein. Elle a un physique pas du tout de comédienne qu'on découvrirait pour en faire une espèce de jeune bimbo à la mode. En fait, c'est la sosie d'une comédienne que personne peut-être se rappelle, qui s'appelait Julie Jézéquel. Elle ressemble étrangement à Julie Jézéquel. Une espèce comme ça de physique un peu désuet, très nerveux, très fiévreux, à la Nelly Borjo, Clotilde Bézère. Des actrices comme ça qu'on voyait beaucoup dans les années 80-90, qui ont à la fois une espèce de chose très terrienne et à la fois très liane. Et quand elle se met à danser, alors parfois c'est un peu, j'aurais bien aimé la voir davantage danser, mais par exemple la fin, là où son père, qui est vraiment un personnage chargé dans le côté règlement de compte anti-intellectuel de Clapiche, qui préfère miser sur le corps et la grâce, retrouver de l'intelligence physique, quand elle se met à faire le film est un peu une sorte de variation autour de Petrouchka, hein, sur les poupées démantibulées qui retrouvent forme, à la fin quand elle se met toute seule à danser et à se remettre à faire des gestes, même si le chorégraphe lui-même me semble pas très passionnant en tant que chorégraphe moderne, mais elle, comme corps de cinéma, il faut absolument voir le film.
Et Clapiche s'est filmé,
un
corps en train de danser. Pierre.
C'est sympatoche, comme je dis souvent. c'est un film sympatoche. C'est-à-dire que c'est plein de bons sentiments. C'est un film sur la résilience.
Et la rédemption.
Plutôt la résilience. Enfin, c'est un mot que j'ai absolument en horreur. Mais enfin, c'est ça, c'est... tout va s'arranger, tout est magnifique, tout est très, très bien. Bon, alors, c'est très bien, c'est un feel-good movie. Et je suis tout à fait d'accord qu'il ne vaut que pour cette danseuse.
C'est-à-dire, Marion Barbeau.
Elle est magnifique. Et c'est vrai qu'il filme très bien ça. Il aime la danse, je crois, Clapiche, et il sait absolument bien la filmer. Tout le reste, après, il y a Muriel Robin qui joue une ex-artiste qui en a, et puis, mais c'est très bien, je me console avec... Non, il y a le couple qui s'engueule tout le temps. Enfin, il y a toujours chez Clapiche, Et pourquoi pas? Il est très populaire pour ça, et j'aime bien ce qu'il fait quand il fait les poupées russes. Pourquoi pas? C'est du cinéma populaire qui est rempli de petites silhouettes sympathiques. Et donc, si on est bien intentionné, on sort de là et on est très content. On oublie 10 minutes après. Moi, je l'ai vu il y a 15 jours. J'ai pratiquement tout oublié, sinon le sentiment que...
Heureusement que je résume les films avant.
Et la danse est très, très bien faite. Cela dit, il y avait un film, juste en regardant, sur l'opposition danse classique, danse moderne, il y avait un film avec Mikhail Baryshnikov et Hélène Mirren qui s'appelle Soleil de nuit, où vraiment, sur l'opposition classique, comédie musicale moderne, c'était 10 fois
mieux. Ne me dis pas qu'Hélène Mirren dansait...
Non, elle était chorégraphe.
Ah oui, mais Nicolas...
Oui, moi je serais un petit cran au-dessus, parce que c'est vrai que Lapiche, ça fait quelques temps qu'il était quand même un peu, enfin qu'il n'était pas très inspiré, qu'il se complaisait un peu dans son esthétique un peu publicitaire et dans une forme de dépression comme ça, un peu avec sa philosophie de bazar qui me plaisait pas toujours. Et là, je trouve quand même par la danse, effectivement, il s'élève à un niveau au-dessus. Et les 10 premières minutes, faut quand même reconnaître, oui, il y a une élégance, une manière de filmer. Il y a pas de parole. Moi, j'avais jamais vu Lapiche aussi inspiré en termes de mise en scène et qui fait écho
dans
bien sûr à la fin.
Une belle lumière,
voilà,
d'ailleurs.
Lumière et vraiment c'est très beau et on sent le côté, c'est pas que beau, c'est on sent le physique, on la sent à la fois, il y a un travail sur le son qui a été hyper intéressant, on entend les bruits de pas et tout, c'est pas que la musique qui est là. Donc là, voilà, vraiment ça, pour ça, c'est beau. Et puis je vous trouve un petit peu dur quand même. Alors, Lapiche, il y a plein de, comme ça, de petits caractères, un peu de petits sociotypes qui sont pas si sympathiques que ça finalement. Et je trouve que sur le père, il y a des choses assez justes. Marmaille et Civil sont assez drôles. Moi, quand Civil est son kiné est au téléphone et qu'il essaye de la dragouiller en essayant de se détendre sur ses ustensiles de kiné, là il y a quand même des petites comme ça, des petites trouvailles très sympas qui sont assez drôles. Voilà, c'est très sympa. J'ai plus de mal avec les aphorismes de Muriel Robin entre Annie Girardot et Yoda, là on sait pas trop, c'est un peu problématique.
Et voilà, donc mais
je trouve que Lapiche avait jamais été aussi inspiré depuis une bonne dizaine d'années. Donc voilà, c'est un bon feel good movie avec ses petits défauts, mais je trouve qu'on
Souhaila Yacoub est
Yacoub qui est assez drôle dans un aussi un personnage très contemporain.
C'est des photographies de mariage réussies.
Encore, c'est le film de Cédric Lapiche. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui. Bonsoir, monsieur.
Moi, je trouve que le film était très décevant parce que, je dirais, parce qu'il trébuche. Parce qu'il va en montrer trop. Il y a une partie sur François Civil parfaitement indispensable. Et j'aurais presque aimé... qu'on étudie plus la relation avec le père. Je pense que là, il y avait vraiment quelque chose de beau et de fort à creuser. Et c'est, comme il va en montrer trop, c'est à peine mentionné, c'est pas du tout profond. Et je trouve que du coup, ça fait perdre de l'intérêt au film. Mais bon, sinon, voilà, on passe un bon moment. Il y a plus.
Apparemment. Merci, monsieur, pour votre intervention. Pas d'autres réactions sur ce film. Un détour par les États-Unis avec Ambulance de l'Américain Michael Bay. À Los Angeles, un vétéran, Will Sharp, qui est joué par Aya Abdul-Mateen II, a besoin de $230,000 pour couvrir les soins médicaux de sa femme. Et il contacte son frère adoptif, Danny, c'est Jake Gyllenhaal, qui lui parle d'un braquage de la Banque fédérale qui pourrait rapporter $32 millions. Mais rien ne se passe évidemment comme prévu, et les deux compères tirent sur un vieux flic et ils s'enfuient en ambulance. Et puis dans l'ambulance, eh bien, il y a l'ambulancière, Eza Gonzalez, et il y a surtout le policier sur lequel ils ont tiré. Et la course-poursuite va durer quand même 2h15. Alors c'est le remake d'un film danois que je n'avais pas vu, qui serait sorti en 2005, mais que vous, forcément, étant très cinéphile, vous avez vu, non?
Non, tout à fait, pas du tout.
Alors, qui est monté dans l'ambulance? Nicolas?
Moi, je suis monté. Alors, j'y suis monté avec plutôt avec une grande curiosité au début, parce que le cinéma américain à grand spectacle et le blockbuster, comme on dit, est tellement dans un état catastrophique.
Et puis, tu as remarqué qu'on en a de moins en moins.
Voilà. Alors, soit on a du super-héros, du Marvel, et tous ces films qui ne touchent plus sol et où on n'a plus aucun rapport, à quelque chose de dur, c'est-à-dire de la réalité du monde physique. Et là, Michael Bay, j'avais un petit peu d'espoir. En plus, vu le sujet, une espèce de série B, comme ça, un peu menée tambour battant. Et voilà. Et donc, effectivement, au tout début, c'est difficile à dire, parce que Michael Bay est quand même un cinéaste de la dégénérescence de hollywoodienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en fait toujours trop, qui fait des plans qu'on ne voit nulle part ailleurs, des plans ahurissants, mais qui a un vrai problème pour les organiser dans une mise en scène. Et là, au début, il y a quand même un plaisir à voir des plans qui sont concrets, réels, pas fabriqués par ordinateur, à voir des vraies poursuites, à voir la ville de Los Angeles qui est filmée de manière qu'on redécouvre d'une certaine manière. Il filme beaucoup le street art et tout ça. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Non, mais ça, c'est 10 minutes, un quart d'heure où on se dit, tiens, on retrouve une forme de cinéma américain qu'on ne voit plus. Et puis au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure, on n'en peut plus parce qu'il ne peut pas s'empêcher de tout boursoufler, d'en faire trop, de tout casser, et on ne croit plus en rien. Et le film est même sur le fond, je trouve, d'une espèce de un petit côté putassier à mettre tous les éléments de l'époque. Alors il y a bien sûr l'infirmière d'origine hispanique qui est la vraie héroïne du film, ce qui pourrait être intéressant, mais malheureusement
Eza Gonzalez.
Il y a le gangster qui n'en est pas vraiment un parce que c'est donc le personnage qui veut sauver sa femme et qui veut lui payer donc son opération parce qu'il a pas l'argent malheureusement pour
c'est un héros
à la fin mais il joue comme ça sur des images parce qu'à la fin il se fait braquer par les flics, bien sûr il y a tout ce qui a l'actualité
sur la fin on la connaît pas.
Bon, voilà, on va pas dire. Bon, voilà. Voilà. Donc, il y a quelque chose en plus d'assez.
On ne sait pas où va l'ambulance.
Tout à fait. Donc, quelque chose de assez putassier derrière tout ça qui je trouve assez, épuisant et c'est pas possible.
Non, mais alors, c'est nul, nullissime. C'est terrifiant. Oui, mais il y a une scène qui m'a fait hurler de rire. C'est vrai, c'est dans l'ambulance. Il y a l'infirmière qui opère le malade.
Elle opère.
Enfin, c'est la rate qui se dilate pas, mais qui va pas du tout.
Et donc, de la table.
Ouais, c'est ça. Et alors, elle plonge.
Alors, Pierre fait les gestes, tu dis ça pour les auditeurs qui ne sont pas équipés de l'écran.
Pour lui. Et alors, tout ça, elle le fait parce qu'elle n'est pas du tout douée pour ça, elle n'est pas faite pour ça. Elle prend conseil par visioconférence avec deux médecins qui jouent au golf en même temps, quasiment. Enfin, alors là, ça devient tellement grandiose que là, j'aime beaucoup ça.
Dans son ex. Voilà.
Mais le petit problème, c'est qu'il n'y a pas un plan qui dure plus de 2 secondes et demie, la caméra passe par-dessous les ponts, par-dessus les ponts, c'est ça. Vous n'avez jamais vu ça, mais n'y allez pas parce que malgré tout, c'est dément, c'est d'une nullité totale. Et alors évidemment après, parce que dans le genre cliché, il y a le mec du FBI, mais alors lui qui a son mari, parce qu'il faut maintenant être un peu à la mode. Tout ça est nul et non avenu. Voilà.
Camille.
C'est plutôt un remake de Speed, mais sans Sandra Bullock. Donc, quel intérêt de voir un film d'action sans Sandra Bullock. C'est un petit peu, repeint. Un film d'action des années 90 repeint avec le Caire, l'ambulance. Hein. Sauf que, forcément, le Caire, c'est la femme, c'est l'ambulancière. Les hommes, eux, font l'action. On subit, parce que c'est vraiment... Alors moi, je veux bien Michael Bay. En fait, j'avoue, c'est mon premier Michael Bay. J'avais jamais vu ça. Michael Bay, certains veulent en faire un Tony Scott ou un Michael Mann. Bon, je crois pas vraiment que... Enfin, peut-être je me trompe, mais je pense pas qu'on puisse en faire un cinéma expérimental totalement déchaîné. En tout cas, je l'ai raté, parce que moi, je subis ça. C'est-à-dire que déjà, le cinéma de course-poursuite constant est assez fatigant pour mon cerveau, parce que c'est vraiment le genre de film qui est purement, on met son cerveau de côté, on oublie et on le reprend à la sortie de la salle, parce qu'il n'y a rien pour moudre. Enfin, normalement, un bon film d'action, il y a un personnage, quelque chose qui est creusé, quelque chose d'un portrait psychologique, de quelque chose qui se passe, par exemple, dans le film de Clapiche, entre le début et la fin, elle guérit, là, on ne peut pas dire ce qui se passe à la fin, mais on ne peut pas dire qu'il y ait grand chose qui s'est...
Le flic guérit.
c'est vraiment le roi sans divertissement, et c'est nous le roi, mais le divertissement ne nous atteint pas.
Alors Eric, est-ce que tu vas sauver l'ambulance ?
C'est évidemment le meilleur film du programme.
Appelez l'ambulance.
Ah, j'ai adoré ça.
Non, mais t'es sérieux ou pas ?
Je suis sérieux.
Ouais, il fallait
ce qu'on aime.
T'es au premier degré ou...
Mais complètement. J'ai adoré ce film. J'étais seul dans la salle et je n'aurais voulu le partager avec personne par égoïsme pur. Parce qu'il y a tout ce qu'on aime là-dedans. Le hold-up foireux. La relation entre deux frères. Les embouteillages. Les hélicoptères. Le méchant qui n'en est pas un. L'infirmière au grand cœur ou à la grosse
rate. Et les 2h15, tu as supporté ?
C'est un tout petit peu long, mais ça fait partie du truc. Parce que c'est bourré de références. Mais tu sais, ça aurait été tourné à Paris grâce à Hidalgo, le film aurait duré 5 heures. Parce que... Et ce Michael Bay est un vrai roublard. Tu as la caméra qui se prend pour un derviche tourneur. Il fait des citations à Speed, à Heat. On entend énormément parler de Bad Boys, un film que j'ai pas vu, qui est peut-être de lui.
Qui l'a réalisé, oui.
Et
réalisé,
le gars du FBI qui est là, comme ça, évidemment. Le braqueur est un de ses anciens copains. Alors, on sait pas si c'est son ex ou pas, comme,
C'est son ex.
Ah, c'est ça. Voilà,
on m'a échappé tellement
j'étais pris par l'action.
C'est ambigu. Et
c'est vraiment du cinoche du samedi soir.
C'est très ambigu.
Donc, fallait y aller hier. Et non, mais c'est un film sans prétention, comme on n'en fait plus, et comme Hollywood n'ose plus en faire. Et
sans prétention, mais c'est complètement...
C'est très prétentieux, au contraire.
Prétentieux.
Ah, bah ouais.
Mais
oui,
c'est, ah, mais non, c'est pas prétentieux. C'est le cinéma bourrin, comme il faut en faire souvent.
Ah, bourrin, pas prétentieux.
Il y a une séquence proprement géniale, avec des ralentis sur California Dreaming des Mamas and the Papas, ouais, qui est fabuleuse.
On avait déjà vu Wong Kar Wai.
C'est pas du Wong Kar Wai, c'est pas du Bergman non plus. Hein.
Oui, mais c'est pas la version de Mamas and Papas.
Non, je crois pas. Ouais. Oui.
Tu es assez déroutant, Eric, parfois.
Déroutant, c'est le terme.
Ambulance de Michael Bay, est-ce qu'il y a des spectateurs qui veulent en parler de ce film? Oui. Bonsoir, monsieur.
Michael Bay, il y a deux mots en P de l'appareil critique qu'il faudrait peut-être pas retirer, c'est pastiche et parodie. Le film est drôle. Je veux dire, on voit bien que Michael Bay ne se prend pas au sérieux pratiquement à aucun moment du film.
Oui.
Évidemment. Alors, en plus de pastiche et parodie, il y a citation, puisqu'il y a une, la scène ouverture et une citation de la scène de cast Heat de Michael Mann. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des citations aussi de Terminator 2, et puis, on peut pas prendre ces personnages au sérieux à aucun moment. Et dire qu'il n'y a pas de héros, Jack Gyllenhaal, on peut pas dire que la façon dont il joue, il se prend au sérieux. Il rigole tout le temps. Il est drôlissime.
Non, mais on les prend pas du tout, ni au sérieux.
Drôlissime. Mais il n'y a rien de sérieux dans ce film. Non, moi, j'ai rigolé au moins 10 fois, quoi.
C'est
un pastiche et une parodie. Je ne pense pas vraiment que même Michael Bay ait cru une seule seconde.
Je suis d'accord, mais c'est une parodie ennuyeuse, tu vois.
Non, c'est pas ennuyeux. Non, c'est bourrin, mais c'est pas ennuyeux. C'est pompier, mais c'est pas ennuyeux.
C'était notre ami Cédric Le Penru qui tient une chronique cinéma sur le web. Pas d'autres interventions sur ce film. On va aller vite pour évoquer, mais ça marche très fort en salle, Le Temps des Secrets de Christophe Baratier, le réalisateur des Choristes, d'après le livre de souvenirs de Marcel Pagnol. Marcel Léo Campion, c'est un jeune, tout jeune comédien, puisqu'il a 10 ans, à Marseille, en juillet 1905. Il vient d'achever ses études primaires et avant d'entrer au lycée, il a devant lui 3 mois de grandes vacances dans ses chères collines d'Aubagne, où il retrouve les grands espaces et son ami Lily, avec quand même Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutet, François-Xavier de Maison, Anne Charrier, Olivia Côte, Michel Villermoz, Bruno Raffaelli. Ça dure 1h48 et franchement, à côté, Yves Robert, si on parle de Pagnol, c'était Alain René. Hein. Camille n'a pas osé aller le voir.
Non, j'aime trop Pagnol.
Pierre.
Et dans la distribution, t'as oublié un nom qui me paraît très très bien, c'est Marc Barbet.
Marc Barbet, oui, absolument.
Marc Barbet, parce qu'on le voit.
Mais il y en a d'autres encore. Hein.
Oui, oui, non, mais lui joue le rôle de Pagnol.
Il ressemble d'ailleurs.
Et voilà, et c'est ça. Et quand je l'ai vu, parce qu'il apparaît très peu.
Pagnol petit, c'est Léo Campion.
Voilà. Oui, oui, mais quand il apparaît à la fin du film, vraiment, il s'est fait la tête de Pagnol et il ressemble à Marcel Pagnol. C'est le seul bon moment du film.
Qu'est-ce que ça ajoute qu'il ait la gueule de Pagnol ou
Ah ben bah non, parce que au moins on se réveille un peu, quoi. Voilà. C'est non, mais c'est pas déshonorant. C'est-à-dire que Yves Robert, en effet, tu l'as rappelé, il avait fait La Gloire de mon père, Le Château de ma mère. C'était très bien. Était-ce utile de refaire exactement la même chose en un tout petit peu moins bien? Je sais pas, mais enfin bon, si ça marche, c'est très bien. Enfin, voilà,
oui, ça marche,
c'est de la couleur locale. On faisait ça donc il y a 40 ans quand c'était Yves Robert. Peut-être que dans 40 ans, on fera encore le remake de Du Temps des Secrets, et puis ça peut continuer comme ça avec d'autres acteurs. Ça n'a aucun intérêt.
Peut-être ça va intéresser un jour Michael Bay qui va faire une version. Eric.
Ah, c'est un accident de Pagnol.
Oh,
oh là là.
Vous auriez été déçus.
Oh non, si vous... Le problème, c'est que si vous applaudissez, il va en faire davantage.
Oui,
il va les préparer davantage.
Il travaille.
Donc, s'il vous plaît.
Mais tu travailles avant l'émission, toi. C'est vrai.
Mais j'ai vu le film. Non, mais Pierre a raison. C'est un livre d'images. Est-ce que c'était bien utile d'adapter ce livre qui est pas le meilleur de la trilogie de Pagnol, en plus? Mais c'est pas un truc très prétentieux. Hein. C'est...
C'est belle soirée.
Non, c'est vrai.
Non, c'est pas prétentieux, ça.
C'est des cartes postales. La musique est épouvantable, tellement grandiloquente. C'est un peu le contraire de la modestie de Pagnol, le côté quotidien, sympathique. Il a un peu actualisé. Il y a la tante et la mère qui sont vaguement suffragettes pour être dans l'air du temps. Il y a les chants des cigales et les chants de la vente. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Mais je crois qu'il s'attendait à notre réaction, d'ailleurs.
Qui, Pagnol?
Baratier. Parce que dès le début, il y a un dîner dans le jardin, là, et De Maison apporte une daube à la provençale. Et Baratier a dû le faire exprès, sachant qu'on allait dire que c'était une daube à la provençale. Mais on a quand même envie de dire, les plus vieux comme moi se souviennent de la publicité pour des épices, ça sert à quoi que Baratier se décarcasse?
C'est une daube à la catalane, précise-t-il.
Après, oui, précise. Oui.
Nicolas.
Ben non, mais le problème, c'est que Baratier, en plus, a découvert le drone. Donc, du coup, on a des plans au drone au-dessus de la garrigue qui n'arrêtent pas. On a l'impression de vraiment de voir une publicité pour l'huile d'olive. Donc, c'est comme la tisane. C'est pas désagréable à boire, mais ça n'a pas beaucoup de goût, quoi. Je peux pas dire grand-chose de plus. Après, le problème, c'est qu'il fait en plus rien des personnages adultes qui prennent l'accent quand ils y pensent, d'ailleurs.
C'est de l'appropriation culturelle, on va dire.
Par contre, juste, n'enchaînez pas le Michael Bay et le Temps des Secrets, parce que là, vous risquez l'hydrocution, il y a un tel contraste. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire, c'est très illustratif. C'est dommage qu'il n'arrive pas à recréer, effectivement, le charme et ce qu'il pouvait y avoir vraiment de très touchant chez Pagnol, dont j'ai un vague souvenir d'école, mais voilà, ses rapports familiaux et tout, il s'est pas filmé ça, parce qu'il reste très
quand
illustratif.
Rageant, parce que Pagnol est un très grand cinéaste.
Ah, oui, ça, ouais,
voilà, oui, non, mais là,
il faudrait mieux revoir les films de Pagnol.
Pagnol n'a jamais adapté ce livre-là.
On voit que Pagnol avait l'air d'être gaucher là-dedans.
Oula.
Oui,
c'est le grand truc que j'ai retenu.
Je ne suis pas sûr qu'il était gaucher.
Le
gamin est gaucher.
Oui, je sais bien, le gamin, mais enfin...
Ça intéresse la vérité.
T'es pas aussi quantifié sur ambulance. Hein.
Tu es très doué pour déceler les ambiguïtés des films.
Le Temps des Secrets, c'est signé Christophe Baratier. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non, personne n'ose, hein, en fait. Le Monde d'hier de l'écrivain, dramaturge, réalisateur Diastème. À qui on doit, je pense que vous l'aviez vu comme moi, il y a en 2015 un film qui s'appelait Un Français sur un jeune néo-nazi. Le Monde d'hier, film co-scénarisé par Stéphane Davet et Fabrice Lhomme, le couple d'enquêteurs qu'on connaît bien du Monde, qui ne sort pas par hasard à la veille de l'élection présidentielle, puisque ici, c'est une élection à laquelle la présidente centriste en exercice, Elisabeth de Rincy, qui est jouée par Léa Drucker, a décidé de ne pas se présenter. Il faut ajouter que dans cette Élysée d'Elisabeth de Rincy, le secrétaire général est Denis Podalydès, que le Premier ministre, très très au bout du rouleau, c'est Benjamin Biolay, qui est très bien pour le rôle. Il a toujours l'air un peu au bout du rouleau, hein, quel que soit le rôle.
Oui, il attend le troisième tour, lui.
Et le garde du corps, autrement dit le Benalla de la présidente, c'est Alban Lenoir. Or, trois jours avant le premier tour, le candidat qu'elle avait désigné pour lui succéder est laminé par un scandale impliquant, je vous le donne en mille, la Russie. Le film est quand même écrit il y a 2 ans. Hein.
Oui, c'est ça.
La voie est donc libre pour le candidat d'extrême droite, incarné ici par Thierry Godard, et qui est assuré d'entrer, donc on est 3 jours avant, à l'Élysée, un film d'1h29, donc rapide. Nicolas.
C'est intéressant parce que tu citais un Français, le précédent film de Diastème, et là c'est marrant parce qu'il y a toujours cette obsession de Diastème de l'extrême droite.
Il y a une suite. Hein.
Voilà, ça c'est assez, c'est bien de sa part de creuser un sillon. Mais alors les films sont totalement à l'opposé en termes d'approche, c'est-à-dire qu'autant un Français était dans une forme de naturalisme comme ça, d'à suivre un personnage, presque un naturalisme dardénien comme ça, très cru. Et là on est vraiment, et on est à l'opposé aussi de l'échelle sociale, c'est que on était vraiment au niveau du peuple, et là on est au niveau
on est à l'Élysée quand même, hein.
On est à l'Élysée, on est dans les hautes sphères de la politique, et là on est vraiment dans quelque chose de j'allais dire, une forme de fable politique où on a vu beaucoup de films sur la politique récemment, sur la chose publique et on voyait beaucoup comment on travaille là, sur le terrain. On voyait quelque chose de très concret. Je pense par exemple à des films comme Alice et le maire ou Les Promesses. Et lui va dans quelque chose qui est entre ce réalisme à la française et quelque chose de beaucoup plus anglo-saxon, qui est peut-être plus métaphorique, qui parfois va même frôler avec le conte. Et dans ce huis clos là, je trouve que ce qu'il arrive à organiser entre donc le personnage de la Drucker qui joue la présidente, ce personnage de secrétaire général qui joue pas Donny Pedalides, dont on ne connaît, c'est vraiment un poste.
J'ai oublié Jacques Weber qui joue celui qui était désigné pour lui succéder et qui va tomber à cause de la Russie.
Mais qui n'a qu'une seule scène. Mais il y a c'est vraiment dans ce qui se joue entre Pedalides et la présidente qu'on ne connaît pas vraiment et qui, je trouve, il raconte des choses sur le fonctionnement de l'État qui est assez passionnant. Et voilà, je trouve qu'il faut le prendre vraiment. Alors sur la fin, il précipite un peu les événements, ce qui fait que le côté thriller en pâtit un peu, mais moi je trouve qu'il faut le voir comme une fable, et je trouve que c'est porté par des comédiens formidables que sont les
fables. Fable parce que quand elle fait visiter le QG à l'Élysée, par exemple,
ça, c'est magnifique ça.
C'est improbable.
Ah, c'est improbable, et en même temps, là, on sent que c'est Diastème qui est là et qui, en gros, dit, voilà, vous n'y arriverez pas, quoi. Enfin, il y a un côté, je vous montre
le lieu où vous n'entrerez jamais. Donc,
et je trouve, et voilà, il tombe à point nommé, et voilà.
Il y a un temps de parole, hein, comme on l'a.
Ah, ben, je suis très surpris moi-même parce que les autres films de Diastème me convainquaient pas énormément. Je trouve ce film formidable. Mais formidable parce que, justement, la scène que tu viens d'évoquer, Jérôme, c'est-à-dire que lorsqu'elle fait visiter à celui dont elle redoute dont elle, la scène où elle vient donc là, pour lui montrer là où il y a eu les trucs nucléaires, quoi, le défense Jupiter, ce que ça s'appelle, je crois, et qu'elle lui dit cette phrase, je vous montre le lieu où vous n'entrerez jamais. Mais c'est formidable. Je trouve que voilà, ce film a...
Ce qui est illogique, puisque encore une fois, il est le dernier en lice.
Je trouve qu'il y a une différence que je trouve extrêmement réussie, et c'est rare, à mon avis, entre le fond qui est presque du Dumas, d'une certaine façon, parce qu'elle a des décisions... Non, mais il y a des machinations, il y a des complots, il y a une décision à prendre, qu'elle doit prendre, qu'elle doit assumer...
Et on ne dira pas laquelle.
Et voilà, et bon, donc tout ça est un peu... Et à côté de ça, ces mésaventures, qui sont vraiment de la machination pure... Et vraiment Dumas, on a l'impression que c'est pour le bien
c'est
de
Roland les... Dumas,
c'est souvent. Pour le mais non arrête parce que c'est non mais je trouve que c'est vraiment très très audacieux d'avoir fait ce film là et sur la forme justement il arrive à faire une épure presque de nouvelle du 19e, c'est un conte cruel de Barbey d'Aurevilly et le fait que ce soit justement ces péripéties très romanesques et cette forme très stylisée, ça fait quelque chose de très très fort. Moi je trouve que c'est un film remarquable.
Je vous rappelle que dans une semaine exactement, nous votons pour le premier tour. Camille.
Oui, mais je trouve que le film n'est pas très actuel. D'ailleurs, il s'appelle Le Monde d'hier en hommage, en référence à Zweig. Le film aurait dû l'être. Et puis, depuis, il y a une guerre en Ukraine, etc. Donc le film était finalement assez dépassé.
Il est à la fois dépassé et rattrapé quand même.
Bah, oui. Il y a la Russie.
La Russie, c'était celle d'il y a 5 ans qui a influencé les élections de Trump et tout. Je trouve que le film, qui est finalement du ressort de la tragédie, théâtrale, théâtralisée, assumée, manque sa cible parce qu'il... Je trouve qu'il se fait pas. J'adorais vraiment un Français, que je trouvais un film assez audacieux sur prendre un personnage.
Et terriblement inquiétant, je trouve. Moi, j'en ai un souvenir.
Et puis avec. Avec ce comédien qu'on retrouve là, qui fait le garde du corps, qui me semble être ce qu'il y a de mieux dans le film, le rapport entre Léa Drucker et lui, cette espèce de rapport tactile et de proximité du secret entre un garde du corps et la présidente, alors que tous les autres me paraissent saturer le film dans des sortes de caméos, de numéros d'acteurs plus ou moins réussis, plus ou moins ratés. Je trouve que Pedalides, par exemple, le personnage qui est plus ou moins inspiré de, je sais pas, Gros Souvre ou des personnages comme ça d'instigateurs et d'intrigants de cour. Je trouve que vraiment on se retrouve avec une idée du classicisme, de la théâtralité tragique à la Corneille si on veut, de la prise de décision, du dilemme et tout, au milieu de personnages de bourgeois et là où par exemple des gens comme Bertolucci, tout un cinéma politique italien ou français chez Chabrol dans L'Ivresse du pouvoir et tout, avaient bien compris qu'on n'était plus dans un temps où les grands de ce monde étaient des gens qui avaient une charge tragique à amener mais plutôt quelque chose de plus médiocre. Je trouve que il se trompe en surécrivant quelque chose qui aurait dû être beaucoup plus médiocrement abordé en fait.
Eric.
Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Encore un effort, parce que les Français ont élu une femme, mais ils ont choisi une aristocrate, hein, parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de garder ce côté régalien. Alors c'est Léa Drucker. On voit beaucoup sa nuque parce qu'elle est tout le temps filmée de dos dans les couloirs de l'Élysée, là, ça, comme dans un film des Dardenne. Oui, oui. Et je trouve
enfin, dans l'histoire, elle n'est pas très en forme non plus, hein, si tu permets.
Oui, mais c'est ça le problème du film, c'est qu'il est trop chargé, comme quelqu'un qui aurait rempli sa valise de peur de manquer quelque chose pour le week-end. Alors il y a un petit cancer à la Mitterrand, un brave suicide à la Grosse-Ouvre, un attentat, une histoire vaguement à la Fillon, encore un coup des Russes. Et comme dit Camille, c'est complètement dépassé par l'actualité, parce que l'histoire des Russes, ils ont dû y penser à cause de Trump, je ne sais quoi à l'époque. Et là, il y a une guerre, c'est autre chose. Et la menace fasciste.
En quoi ça empêche de...
Mais parce que ça n'exploite jamais jusqu'au bout aucune des pistes.
Et c'est pas
moi, c'est un film auquel je n'ai pas compris ce que le film voulait dire.
Non, c'est vrai qu'en plus, il y a quelque chose qui ne va pas entre le début et la fin. La prise de décision, mettre à mort un méchant. Toute une série d'arcanes psychologiques.
On ne sait pas. On ne sait rien.
Non, mais justement, c'est ça le dilemme.
C'est un peu vrai, c'est le problème du film, d'ailleurs.
La prise de décision tragique. Non. Et je trouve que la façon dont les ressorts sont forcés psychologiquement, ça ne va pas.
Ce que disait Camille sur le pathétique à la Chabrol, justement, je trouve que c'est presque louable chez Diastème de vouloir redonner une dimension tragique ou en tout cas une dimension intègre à cette
film. Ouais. Je voudrais que termine parce qu'on a encore deux films.
Quand on voit les films politiques, comme on dit, comme Les Promesses ou L'Exercice de l'État à l'époque, il n'y a vraiment pas de comparaison possible avec ça.
Le Monde d'hier, Diastème, des réactions sur ce film? Oui, une réaction. Le micro vient vers vous, monsieur.
Non, ben moi j'ai trouvé intéressant justement cette plongée un peu en apnée dans le milieu politique, les répliques entre la présidente et le secrétaire. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous plonge un petit peu. On est en train de faire un cauchemar parce que finalement à la veille des élections, on apprend certaines vérités. Et je voudrais pas que justement le monde de demain soit pire que celui d'aujourd'hui. Quoi, voilà, c'est tout.
Merci pour votre intervention. Allez, de nos frères blessés, le deuxième long métrage d'Élie Cisterne, coécrit avec Katel Kiveré, d'après le livre qui était incroyablement fort de Joseph Andras, qui avait reçu d'ailleurs le prix Goncourt du premier roman en 2016. Un film et un livre qui raconte un épisode tragique et mal connu de la guerre d'Algérie. En 1957, Fernand Yveton est guillotiné à Alger. Il était ouvrier, communiste, anticolonialiste, et il a été accusé d'avoir déposé une bombe dans un placard de l'usine où il travaillait, condamné à mort pour terrorisme. Sa grâce a été refusée par le président René Coty, après l'avis défavorable du garde des Sceaux de l'époque, un certain François Mitterrand. Fernand Yveton sera donc le seul Européen décapité en Algérie, mais il faut dire aussi que la vérité, c'est qu'il y a eu 222 exécutés algériens. Dans le rôle d'Yveton, Vincent Lacoste, Vicky Krieps incarnant sa femme. Encore une fois, une histoire tout à fait vraie, dont la démonstration dans le film est absolument imparable. Pierre.
J'aime pas faire ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même. C'est-à-dire que j'aime pas les critiques qui disent « voilà le film que j'aurais aimé voir ». Parce qu'après tout, c'est... Mais c'est exactement ce que je vais dire quand même. C'est-à-dire que moi, le personnage qui me plaît beaucoup, c'est lui, bien sûr, le héros, et ce qu'il représente. C'est-à-dire ce qu'il tend, son utopie, son idéal qui était un peu un idéal à la Albert Camus, en quelque sorte. C'est-à-dire... d'essayer.
Camus qui, comme Sartre, ont été les défenseurs de Fernand Yveton.
Oui.
Beauvoir aussi. Mais enfin, ils n'ont pas écrit de texte. Alors que
moi, j'avoue que je connaissais pas du tout l'existence de ça. Mais voilà, ce qui me paraît passionnant, c'est de montrer un type qui, en effet, croyait que l'Algérie pouvait être un pays indépendant avec des Algériens et des Français qui pouvaient vivre dans l'harmonie. C'est une utopie peut-être, mais c'est ça qui me paraît passionnant. Or, pour moi, Elias Cisterne ne fait qu'effleurer cela parce qu'il préfère montrer une charge contre un pamphlet en quelque sorte et bien sûr qu'on est tous catastrophés que cet homme qui n'a pratiquement rien fait mais à ce moment-là si c'est pour le pamphlet il me semble qu'un cinéaste comme Yves Boisset dans RAS ou autre faisait des choses beaucoup plus fortes et beaucoup plus véhémentes. Je trouve que ce n'est pas et le fait que sa femme le plaît, il en fait un mélo en quelque sorte dans lequel il nous rappelle que la France s'est pas très bien conduite ce qu'on sait, qu'il y avait des militaires qui mettaient des des armes dans la tête des bébés et qui tiraient, on le voit pas, mais on nous le raconte, et qu'en effet, François Mitterrand n'a refusé de le gracier. Mais il me semble que le sujet me paraît autre, et j'attendais quelque chose de plus de ce sujet-là. Voilà.
Eric?
Bah, je suis assez d'accord avec Pierre, c'est que c'est un film, on reste quand même très très extérieur à ça, j'ai trouvé ça artificiel comme tout. On aurait dit un vieux truc de télévision, je l'ai vu il y a un moment, je l'ai un peu oublié, et c'est tellement mal foutu, les flashbacks, l'histoire d'amour, qu'on a presque l'impression que la guerre d'Algérie est une invention là-dedans, que ça n'a pas existé, presque. Et on sent pas du tout ça, à force de nous faire l'histoire d'amour avec Vicky Krieps, que je commence à plaindre, la pauvre, parce que faut qu'elle quitte la France de toute urgence, parce qu'après Amalric et Hansen Love, ça, c'est pas ça qui va, alors qu'elle était sublime dans le Phantom Thread. Et le film m'a laissé complètement de glace et je l'ai oublié, et c'est dire du mal de Mitterrand dans un carton à la fin en 2022, c'est bon.
Nicolas?
Je vous trouve un tout petit peu sévère, c'est-à-dire qu'il y a, je trouve qu'il y a, ça s'ouvre sur une scène quand même d'une épure et d'une force assez remarquable. C'est un condamné qui est envoyé à la guillotine, et là on se dit qu'il va peut-être y avoir quelque chose d'assez tranchant dans le film.
En
plus c'était pas du tout. Non mais tranchant dans le propos et dans la manière d'aborder le sujet.
Oula. Blague sur
après,
t'auras du mal à t'en relever.
Voilà. Après, le problème, c'est que le film, effectivement, repart sur un montage alterné entre le début de cette romance et le moment où il se fait arrêter, où il va y avoir le procès. Là, on sent que il se raccroche à l'histoire d'amour entre Lacoste et Krieps. C'était pas forcément le bon angle à prendre, et que dans cette recherche d'épure, le film et de sobriété, le film n'arrive à retrouver la force du début que par moment épars, notamment à un moment où il est en prison et il y a un Algérien qui lui dit mais c'est quoi ton combat à toi, ouais. Il y a une scène assez forte, ouais. Et malheureusement le film aussi un peu trop entre cette volonté d'en découdre avec le sujet qui réapparaît de temps en temps, et puis quelque chose d'un peu plus retenu voire pudique et qui frise avec la fadeur quand il aborde la romance
livre était sec, voilà. Volontairement
il
sec,
manque une sécheresse,
le talent, et en même temps mais je trouve que le film
a une sécheresse trop polie, je trouve. Et mais Lacoste, pour le coup, on redécouvre.
Alors s'il y a Camille. Un film dans cette espèce de cloaque actuelle des films dont on traite à voir, c'est celui-là. Je trouve le film étonnamment mal aimé. Il est arrivé comme ça, sans médaille, sans festival, sans prix, je comprends pas trop. J'ai été très émue par le film, et autant je disais que le monde d'hier était pas du tout actuel, je trouve que là, pour le coup, il y a quelque chose qui résonne étonnamment avec le monde d'aujourd'hui, dans cette espèce de rapport à la fraternité et de cas de conscience entre quitter une vie amoureuse pour une vocation politique, une fraternité avec un peuple, etc. Alors bon, le sujet de la guerre d'Algérie, c'est toujours un problème. Personne n'est jamais content. Personne ne se retrouve, soit on se sent trahi, soit c'est trop sur un Européen, pas sur un Algérien. Je trouve que le film, c'est rare, il se pose les questions des moyens qu'il se donne pour raconter une histoire assez minimale, très personnelle. Je crois qu'il y a une espèce d'autoportrait d'Élie Cisterne en Vincent Lacoste qui lui ressemble étonnamment, enfin une espèce de comme ça de juvénilité fragile. Il est vraiment génial, Lacoste, dans le film. Le film s'ouvre sur une scène d'exécution à la guillotine et se referme sur une deuxième exécution. Et c'est ce qui se passe entre ces deux. Moi vraiment, j'étais bouleversée. Je pense que c'est quand même surtout un film sur la peine de mort, parce que Mitterrand, c'est pas juste comme ça posé. C'est le même Mitterrand qui a refusé l'amnistie, qui a condamné à mort pas seulement Fernand Yvetot, mais tous les autres Algériens. Et ce même Mitterrand qui aura fait en sorte, grâce à Robert Badinter, d'abolir la peine de mort 30 ans plus tard. Et il y a quelque chose de l'incarnation entre un corps qu'on décapite et un autre corps qu'on guillotine. Comment on fait avec un corps? Parce que tout tourne autour de ce corps de amoureux, de ce corps torturé, de ce corps qui a une conscience, un cas de conscience, et de comment il s'arrache à une vie de confort et pour un peuple et pour un pays qu'il aime. Je trouve le film vraiment à voir, et si j'avais une seule chose à dire ce soir, c'était d'aller le voir, parce que c'est un film fragile et qui mérite d'être vu.
Je suis d'autant plus content que je pense exactement comme toi. De nos frères blessés, déliés, cisternes. On termine très rapidement avec Freaks Out, un film un peu improbable de Gabriele Menetti, qui était à la présenté à Dernière Mostra de Venise, avec des noms que Camille prononcera mieux que moi, comme Santa Maria, Aurora, Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, quatre frères et sœurs, et autant d'attractions d'un cirque à Rome en 1943. Voilà, alors t'en as une qui produit de l'électricité, l'autre qui est albinos et qui contrôle et domestique tous les insectes, puis un homme très géant, très velu, bon, enfin bref, je fais court. C'est évidemment.
Il y a un masturbateur, tu oublies.
Oui,
il y a
un
et qui est magnétique, ouais. Qui aimante tous les métaux. Bon, c'est une farce, hein, une farce quand même de 2h20.
Très sur fond de nazisme.
Sur fond de nazisme. Où on prédit d'ailleurs, où le directeur du cirque de Berlin prédit le suicide d'Hitler, tout ça. C'est du Terry Gilliam italien, je ne sais pas comment le définir. 2h20, Freaks Out. Vous me dites si vous le conseillez, mais vraiment en quelques minutes, Pierre.
Oui, enfin, c'est. Le moins qu'on puisse dire, après le résumé que tu as fait, c'est que c'est original, on ne voit pas ça tous les jours.
Non, absolument.
Voilà, c'est
clair.
On ne voit pas ça tous les jours, donc rien que pour ça, on peut
Et on peut même raconter la fin, donc là, c'est vraiment...
oui, voilà.
Non, on l'a raconté,
je ne
l'ai pas vu.
Y a plein de...
Jusqu'au bout, je n'ai pas tenu, pardon.
Il y a plein de bonnes idées, mais le petit problème, c'est que là encore, bon, ça ressemble un peu à du Fellini, ça ressemble un peu à du Monicelli, les fresques comme ça, Brancaleone aux croisades, enfin, c'est très très italien dans la... la seule petite chose, c'est que, là aussi... C'est pas Michael Bay, mais alors s'il pouvait un peu ralentir ses plans et essayer de filmer un tout petit peu plus classiquement, mais oui, dans l'ensemble, on peut y faire un tour.
Et Camille,
c'est insoutenable. C'est
Tu n'as pas tenu jusqu'au bout.
Non, parce qu'à un moment donné, enfin, c'est un peu comme ce film qu'on avait dû se payer là, l'être personne ou la leçon personne. Oui. Je ne sais plus. Déjà encore avec des camps, des nazis.
Leçon personne.
Des plans pas possibles. Là, c'est le drone. Enfin, dès le début.
Ça c'était très mauvais.
Non, moi j'ai arrêté quand ils rentrent dans le train, qu'il y a un feu d'artifice au loin et qu'on fait un travelling sur les valises. Enfin, moi, je sais pas. Il y a un truc, je ne comprends pas qu'on puisse être dans une forme de révisionnisme à ce point. On est dans une espèce de Rome avec des accents de dialecte romain comme ça, qui se voudrait pittoresque. De l'autre côté, des nazis.
Oui, parce que c'est Rome occupée par les nazis après la défection.
Alors, à moins que j'ai raté quelque chose avant la fin, mais il n'y a pas un Italien fasciste de tout le film. Il n'y a que des nazis et des gentils résistants frics. Mais il n'y a pas de fascisme. Les Italiens sont dans l'autorévisionnisme. Le type, il a dû voir 10 films dans sa vie, dont 8 de Guillermo del Toro et 2 de Aronofsky. Plus Fellini, Portier de nuit et Fellini comme photo préhistorique du cinéma d'avant le 21e siècle. C'est insoutenable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des films comme ça, révisionnistes, sur des sujets pareils. Si.
Ah, c'est étonnant, mais c'est l'équivalent d'un baffreur avec une caméra. Le type, il bouffe tout, il se permet tout, il se croit. Il a pas tort d'ailleurs. C'est un mélange de Fellini, de Todd Browning, de trucs de Marvel. Si. C'est filmé un peu avec des moufles, mais avec une énergie, une gourmandise. C'est du feuilleton à la jeune.
Gourmandise.
Ah oui.
Alors j'ai tout vu sauf la gourmandise.
Mais on voit qu'il adore ça, tout ce qu'il raconte là. Les méchants sont des salauds complets, les gentils sont des merveilles angéliques, et il y a un truc très très marrant, c'est que le gars, il a inventé le smartphone et même le presse-citron de Philippe Starck qui est sur son bureau.
Le mec, c'est le nazi, c'est du chien. Rendez-nous Chaplin. Hein.
Je trouve que moi, je ne serais pas aussi radical que Camille, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées et que, après, bon, on ne peut pas débattre, mais c'est vraiment entre Del Toro, Terry Gilliam et ce qu'essayait de faire Tarantino dans Inglourious Basterds et qu'il n'avait pas complètement... Mais... voilà, mais sauf que c'est massacré par une mise en scène ressemble à de la bouillie, quoi. Alors que le mec a un vrai imaginaire et que l'imaginaire aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque dans le cinéma de spectacle. Donc, je trouve ça dommage parce que vraiment, il arrive vraiment à mélanger plein de choses qui ne sont pas inintéressantes, mais qui sont un peu gâchées par la mise en scène.
L'imagination, il y en a plein des images, il y en a partout chez Michael Bay.
Il y a un vrai amalgame des choses de manière
plus que chez Pagnol.
Out de Gabriele Menetti. Le temps est venu des conseils. On commence avec Camille.
Alors, c'est un peu pour les Parisiens, je reconnais, mais c'est au Forum des Images, jusqu'au 30 avril, un festival qui s'appelle Ça va faire mal, M-A-2-L, Mall, en anglais.
Ah oui.
Le Mall, c'est le centre commercial, voilà. Et donc, j'aime bien l'idée qu'on sorte un peu de l'autorisme, comme ça, Béa, et qu'on passe plein de films différents qui vont de Bonello à Wiseman, à Chantal Akerman avec Golden 80s, de David Cronenberg avec Scanners, enfin, tous les films qui ont un moment donné une scène de centre commercial comme endroit de melting pot de société, de shop around the corner de Lou Beach, de Big Store, de Wiseman, Zombie, Gremlins 2, Holy Motors, Body Double. Voilà, ça donne plein de films hyper disparates et en même temps qui ont ce centre qui est le centre commercial comme endroit un petit peu de zone et de classe mélangée.
Le conseil de Pierre.
Un premier long métrage français qui s'appelle Bruno Rédal de Vincent Leport. C'est une histoire vraie. C'est en 1905, il y a un adolescent qui tue un enfant et on lui demande d'expliquer pourquoi par écrit et c'est ce qu'on voit. C'est un film, alors au point de vue mise en scène, c'est absolument magnifique. Les trois comédiens qui jouent l'adolescent à des âges divers sont formidables. Et je trouve que c'est un film très audacieux, très dérangeant surtout. Et c'est bien d'être dérangé au cinéma puisqu'il nous montre quand même comment l'esprit de tuer, de meurtre, peut arriver dès l'enfance. Et c'est quelqu'un qui se bat pendant quelques années pour ne pas céder à ses pulsions. Et c'est vraiment un film tout à fait étonnant, très bressonien dans la forme, mais vraiment tout à fait intéressant pour un premier long métrage. Ça s'appelle Bruno Rédal.
Mon conseil, c'est un documentaire signé François Bunel et Adrien Selan, « Seule la Terre est éternelle ». Ils sont partis à la rencontre, 6 mois avant sa mort, de l'écrivain Jim Harrison, alias Big Jim, auteur de Dalva et de Légendes d'automne, dans sa maison du Montana. L'écrivain, pas en forme physiquement, c'est moins qu'on puisse dire, pêcheur, panthéiste, voyageur, se confie de manière tout à fait testamentaire dans des paysages à couper le souffle, où, disait-il, il se lavait de la crasse de la civilisation. Seule la Terre était... Tu l'as vu aussi, Eric ?
Oui, c'est épatant.
Hein, c'est impressionnant.
Et on ne voit jamais François Bunel, pour ceux qui auraient peur.
Ni lui, ni de questions de lui, parce que c'est vraiment la parole de Jim Harrison.
Un des meilleurs portraits d'écrivain qui a été fait.
Le conseil d'Eric.
Je vais recommander un objet de papier produit par les esprits les moins fatigués de l'édition française, comme ils disent. C'est le trimestriel Schnock, qui est consacré à Patrick Devers, qui s'est tué il y a 40 ans déjà. On apprend un tas de choses dedans, c'est vraiment épatant. Moi, je ne savais pas qu'il avait doublé Dustin Hoffman dans Le Lauréat. Je ne savais pas que Coup de tête avait failli s'appeler Le Hareng. Et j'ai appris...
Pourquoi
aussi
Le Hareng
Je ne sais pas. C'est Anno qui raconte ça. Et Anno, dont on apprend qu'il, pendant 7-8 ans, il a signé des critiques de cinéma sous un faux nom, mais il ne dit pas lequel.
Le Hareng.
Et on apprend que c'est Yves Boisset qui a fait lire Martin Eden à Patrick Devers. Et on apprend aussi que c'est à cause de Coluche qu'il est mort. Et surtout d'Harakiri. Parce que Coluche avait eu, des années avant, en 78, le prix Bête et Méchant. Et la rédaction lui avait offert un flingue. Et Coluche a offert le flingue à Patrick Devers. Et il s'est suicidé avec ce fusil-là.
Dire que c'est à cause...
L'arme du crime.
Ouais, voilà, l'arme du crime. Voilà.
Donc c'est le numéro de la livraison de Schnock,
ouais, en ce moment,
qui est trimestriel. Et enfin, Nicolas.
Alors moi, comme je ne sais pas si dans... Je vais vous penser à un film qui sort dans le 20 avril, parce que je ne sais pas si on peut faire ça, parce que c'est dans un petit moment, mais...
c'est très étrange.
Au deuxième tour des élections.
On ne l'a jamais fait, tu vas juste...
C'est dans le monde de demain.
Mais non, mais comme je ne sais pas si on en parlera...
Dis-le vite, parce que l'émission se termine.
Non, mais comme c'est un documentaire et que c'est un tout petit... Un petit film qui s'appelle J'aime à la fureur, qui est un film totalement atypique, qui est réalisé par un des trois qui avait réalisé Starry près de chez vous. C'était maintenant, il a 30 ans, et c'est son deuxième film après, 30 ans après. Donc on n'a pas connu de gars plus grand, je pense, dans le cinéma. Même Terrence Malick n'a pas réussi à faire ça. Et donc c'est un film complètement composé d'images de films amateurs. Et c'est à la fois un film qui raconte le 20e siècle à travers des visages anonymes, mais en même temps qu'il y a un vrai film de dodo cinéma et à la mise en scène. Et voilà, je trouve qu'il faut aller voir ce film.
Notez bien que le
20
conseil...
avril, mais comme je ne serai peut-être pas là pour en parler...
Mais si, tu seras toujours vivant.
Tu seras ministre de la culture.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Folie, franceinter.fr. Merci beaucoup Camille Nevers, Pierre Murat, Eric Neuf, Nicolas Chalère pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir à la technique, au théâtre de l'Alliance française, il y avait, et je les remercie, Cédric Chatelus, Tahar Bouklifa, Nicolas Depagraf, à la régie Jean-Yves Masson, à la réalisation Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement, eh ben, il aura lieu le jeudi 14 avril à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail. Dans le 6e à Paris pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on vote et on parle de théâtre. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.